Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-glace. Avant de vous laisser plonger dans votre nouvel épisode, je voulais vous parler de « Y a qu'à m'expliquer », une toute nouvelle série audio du temps dédiée aux intelligences artificielles. Deux fois par mois, dans « Y a qu'à m'expliquer », Grégoire Barbet tentera de démystifier les enjeux posés par ces IA et reviendra sur les principales actualités qui les concernent. Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir « Sous la coupole », notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
J'avais un peu entendu dire que quand on meurt, l'esprit reste un peu dans les alentours du corps, et je me suis dit, dans l'éventualité où elle est un peu pas loin, ben je vais lui parler, je vais essayer d'être un peu forte pour la guider, parce que ça doit pas être facile, quoi. Tout d'un coup, comme ça, genre de plus vivre. Je suis pas sûre de croire à la vie après la mort et tout, mais je me suis dit que si elle pouvait m'entendre, ce serait quand même hyper cruel de pas lui parler. Et que dans l'éventualité où il n'y a rien après la mort, ben, au pire, je pars toute seule et je passe pour une folle et c'est pas grave.
Bienvenue dans la saison 6 de Brise-glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Les étapes du deuil, on les connaît, à peu près. Mais il y a la théorie d'un côté et il y a la vie de l'autre. Surtout, il y a la mort des gens qu'on aime plus que tout. Catherine, vingtenaire installée à Lausanne, a traversé l'enfer de la perte de sa conjointe. Il était 3h du matin, elle rentrait chez elle après une fête. Lucie avait bu. En quelques secondes, tout a basculé. Au micro de Brise-glace, Catherine raconte l'état de choc, la dissociation et les mécanismes de survie de celles et ceux qui restent. Attention, certaines situations ou descriptions pourraient choquer les oreilles sensibles.
Alors moi c'est Catherine, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Alsace et je suis arrivée à Lausanne il y a une dizaine d'années pour les études parce que j'avais entendu parler de l'EPFL et de l'école d'architecture quand même assez prestigieuse qui a pas mal de renommée en France et puis on m'avait vendu le campus au bord du lac avec toutes les activités sportives, les associations et tout et du coup je suis venue sur le campus de l'EPFL. Donc j'ai eu mon master en architecture, mais actuellement je suis coursière à vélo parce que j'avais envie de bouger et de faire quelque chose avec mon corps plutôt que de rester assise derrière l'ordi toute la journée. Alors j'ai 3 sœurs, j'ai grandi dans une famille plutôt traditionnelle. Il y avait pas mal la religion catholique qui était présente. C'était un peu aller à la messe, être sage, vraiment pas trop sortir du rang. Donc... Pendant très longtemps, l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc pendant mon adolescence, je ne me suis même pas posé la question. Et c'est en rencontrant Lucie, c'était une personne tellement incroyable et lumineuse que forcément, je suis tombée amoureuse d'elle et c'était au-delà du genre. Et je me suis dit, en fait, être lesbienne, c'est trop bien. C'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience de ça et qui a un peu tout renversé. Et je l'ai super bien vécu parce que même si c'était pas forcément réciproque et qu'on n'a pas eu une histoire d'amour tout de suite, c'était tellement bien d'être amoureuse d'elle qu'il n'y avait que de la joie, quoi.
Comment ça a été accepté par vos parents ?
J'ai annoncé à mes parents un mois avant que Lucie meure, que j'étais lesbienne, que j'étais avec Lucie, que c'était super. Donc au début, ils ont eu un peu du mal. Ils avaient besoin de temps pour digérer.
Comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés dans une association pour l'écologie sur le campus de l'EPFL en 2017.
C'est quoi votre premier souvenir d'elle ?
Elle était grande, vraiment avec un corps de rêve, mais pas du tout à le mettre en valeur. Enfin, plus genre, un peu s'habiller avec des vieux shorts et avec des yeux marrons et quelque chose d'hyper lumineux dans le regard. Enfin, tout le monde était hyper touché par elle. Donc je me suis rapprochée un peu de son groupe d'amis. Un jour, je lui ai dit que j'étais amoureuse d'elle. Elle m'a dit qu'on avait un copain. Et moi aussi, en fait. Du coup, on s'est dit que c'était pas un super timing, mais que peut-être dans une autre vie. Après ça, j'ai terminé mes études et je suis allée vivre dans une autre ville avec mon copain. Là, on s'est un peu éloignés. Ensuite, je me suis séparée de mon copain et je suis revenue à Lausanne. Là, en fait, je suis allée vivre dans une maison où elle était avec d'autres amis qu'on a en commun. Puis le fait qu'on vive ensemble et tout, petit à petit, on s'est de nouveau rapprochés. Et à partir du moment où on s'est mis ensemble, on voulait pas forcément être un couple. Enfin, on avait envie de rester indépendante et de pas s'enfermer dans une relation qui peut vite être toxique. Du coup, on a décidé de se marier. Mais en faisant un espèce d'anti-mariage, en inversant tous les vœux, en disant pas « je te promets de rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours », mais en disant « je te promets de pas te coller pendant tout le reste de notre vie et de partir quand je sentirais que c'est le moment ». Enfin, vraiment, en renversant un peu tous les vœux.
Et on est d'accord que ça, c'était entre vous, c'était pas un mariage officiel
Oui, c'était entre nous, mais moi, je considère que c'est un vrai mariage. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis mariée pour être mariée. Et après, on a acheté une caravane aussi, qu'on a mis dans le jardin de la coloc. La caravane, c'était plus pour le côté un peu notre petite maison.
En mode tiny house.
En mode tiny house, ouais. Et c'était quand même assez fusionnel. Je pense que même si on voulait un peu déconstruire le concept du couple, on a quand même été clairement dans une phase de lune de miel hyper fusionnelle. J'ai vraiment l'impression que j'ai vécu 10 jours en étant casée avec une femme, une maison. Enfin, il manquait plus que les enfants. Mais du coup, je l'ai toujours et c'est toujours ma chambre, ma petite caravane. On l'a achetée vers le 20 juillet et elle est morte le 1er août.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de cet accident ?
Alors le contexte de l'accident, c'est que je venais de commencer mon job de coursière à vélo. Et dans ce monde-là, il y a des championnats qui sont organisés régulièrement pour toute la communauté de coursiers et coursières de Suisse et d'Europe. Et il se trouve que le dernier week-end de juillet, en 2021, c'était les championnats suisses, et ils étaient organisés à Lausanne. Et notamment, le samedi soir, il y avait une grande fête. Puis voilà, on a bu, c'était à Sauvablin, du coup c'était assez haut. On devait vraiment faire beaucoup de descentes pour rentrer chez nous. Et on est parti vers 3h du matin. Et ben, elle avait trop bu, il pleuvait, c'était en descente et il y a un endroit où il y a un tournant en descente où on avait vraiment pris de l'élan, enfin on allait beaucoup trop vite. Elle a pris le virage trop large et elle s'est mangée la barrière de sécurité et ça lui a arraché la moitié du visage et elle est tombée. Et en fait moi je ne l'ai pas vue tomber parce que je roulais derrière, comme c'était dans le virage, j'ai juste entendu le bruit d'un vélo qui tombe vaguement. Et quand je suis arrivée, elle était là au milieu de la route, allongée sur le dos. J'avais l'impression qu'elle était là depuis 1000 ans. Enfin, c'était trop bizarre. J'étais juste là, posée. Tout de suite, je me suis un peu dit, bon, regarde si elle a l'air encore d'être un peu en un morceau. Sinon, vaut mieux. Enfin, si tu vois que c'est fini tout de suite, enfin, vaut mieux pas trop regarder. Donc, elle avait l'air d'aller bien. Elle était allongée sur le dos. Et en fait, c'est en m'approchant que j'ai vu la blessure. Sur son visage, du coup, j'ai un peu paniqué. J'ai commencé à crier au secours, aidez-moi. Enfin, il y avait des habitations autour. Je me suis dit, j'ai pas envie de rester seule dans cette situation, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Elle respirait à ce moment-là. Enfin, je voyais qu'elle était vivante. Et après, j'ai un peu repris mes esprits. J'ai appelé les secours. Et entre-temps, il y a 2 personnes qui sont descendues, qui avaient entendu mes cris. Et à partir de là, enfin, c'est allé assez vite. La police est arrivée, après l'ambulance est arrivée. Et ensuite, pendant qu'ils emmenaient Lucie en ambulance, je suis allée au poste de police. J'arrêtais pas de trembler sans pouvoir m'arrêter et de pleurer, je crois. Je sais plus. J'avais mal à l'intérieur du cerveau tellement c'était difficile de réfléchir et de me rendre compte. Les pensées étaient juste trop insoutenables. Et à un moment, il y a une policière qui a dit « Non, mais peut-être que vous avez mal vu, il y avait beaucoup de sang, peut-être que c'était pas si grave. » Et en fait, je savais très bien que c'était grave, mais je me suis un peu raccrochée à cette pensée. Enfin, je me suis un peu menti à moi-même. Et après, il y a la psychologue de garde qui est arrivée et qui s'est occupée de moi. Et à un moment, elle m'a dit « on va à l'hôpital. » On est arrivé à l'hôpital, il était 6h pile. Et en fait, elle est morte à 6h02, mais on m'a fait attendre pendant presque 1 heure avant de venir me dire. En fait, ils n'avaient pas le droit de me dire qu'elle était morte parce que j'étais pas de la famille. Et puis au bout d'un moment, voilà, ils sont venus m'annoncer qu'elle était morte. D'après ce que j'ai compris, le choc a brisé des vertèbres tout en haut dans la nuque. à 6h du matin, donc j'ai essayé d'appeler mes amis. Ben, personne répondait. Et sa famille, en fait, j'avais pas les contacts de sa famille. J'ai pas pu les prévenir. Donc j'étais vraiment toute seule avec la psychologue.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, elle, à ce moment-là?
Il n'y avait pas grand-chose à dire, je crois. Elle a tenu ma main tout du long. Enfin, elle était vraiment là en soutien. Mais j'avais tellement dissocié que il y a tout qui est un peu flou. Enfin, mon cerveau avait vraiment coupé toutes les émotions. Je me souviens vraiment pas de grand-chose, à part que ça faisait mal partout. Juste d'envisager ce qui s'était passé. Comme l'impression d'être emprisonnée dans une cage hyper désagréable. Alors ensuite, je me suis dit, mais j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. C'est un peu la seule émotion que j'ai ressentie. Il fallait que je lui parle, quoi. J'avais pas pu lui dire au revoir, donc j'allais pas repartir comme ça sans l'avoir revue, même si elle était morte. En fait, c'était la première fois de ma vie que je voyais un cadavre. C'était quand même assez impressionnant. Mais par contre, ils avaient caché ses blessures. Elle était juste recouverte d'un drap et j'ai vraiment vu son front et ses oreilles. Donc j'ai pas du tout vu les blessures à ce moment-là. Et j'avais un peu entendu dire que quand on meurt, l'esprit reste un peu dans les alentours du corps. Et je me suis dit, dans l'éventualité où elle est un peu pas loin, ben je vais lui parler, je vais essayer d'être un peu forte pour la guider, parce que ça doit pas être facile, quoi, de tout d'un coup, comme ça, genre de plus vivre. Et j'étais plus dans cette énergie de prendre soin d'elle. J'ai vraiment fait comme si elle était là et qu'elle pouvait m'entendre. Je suis pas sûre de croire à la vie après la mort et tout, mais je me suis dit que si elle pouvait m'entendre, ce serait quand même hyper cruel de pas lui parler. Et que dans l'éventualité où il n'y a rien après la mort, ben, au pire, je pars toute seule et je passe pour une folle et c'est pas grave.
Comment ça se passe quand vous sortez de l'hôpital?
Alors, je savais que j'avais pas envie d'être seule et que certains de mes collègues étaient en train de préparer la course qui allait avoir lieu dans la journée. Il n'y avait personne chez moi, il se trouve que tout le monde était en vacances. Et je me suis dit que j'allais appeler mes collègues. Et puis aussi, j'avais pas envie que les championnats continuent sans que les gens sachent ce qui s'était passé. Donc j'ai appelé un de mes collègues qui est venu me chercher à l'hôpital et qui a pris soin de moi toute la journée. Donc j'étais au bureau des coursiers, coursières. Et j'avais pas envie d'être un poids pour les gens. Donc j'étais reconnaissante à tout le monde d'essayer de m'aider. C'était une journée un peu absurde. Enfin, au début, je savais pas quoi faire. Donc on faisait des trucs un peu basiques, genre boire un thé, prendre une douche à un moment. C'était bizarre de faire des choses, un peu. Après, au fur et à mesure de la journée, j'ai appelé mes amis pour les prévenir. Et ensuite, la course des championnats a été annulée. Enfin, en gros, il y a eu un moment où on s'est tous rassemblés, c'était sur la Ripon. Et il y a un de mes collègues qui a expliqué à tout le monde ce qui s'était passé. Et en fait, plus personne n'avait envie de rouler. Et tout le monde a roulé en rond sur la place de la Ripon pour rendre hommage à Lucie. Et j'ai vraiment senti le soutien de cette communauté de coursiers. C'est un peu comme une grande famille, en fait. Il y a vraiment ça où on partage le même métier, mais au-delà de ça, il y a un peu une espèce de philosophie partagée, et puis on fait la fête ensemble. Et en fait, là, j'ai vraiment pu voir que c'était un peu comme une famille où il y avait vraiment du soutien, même quand il y a des trucs difficiles.
Vos parents ? Il l'avait jamais rencontré?
Si, il l'avait rencontré deux fois, avant qu'on soit ensemble. J'ai appelé ma mère le lendemain de l'accident. Je lui ai demandé de prévenir un peu tout le monde dans la famille, parce que j'avais pas envie de prévenir moi-même les gens. J'avais pas la tête à passer des heures au téléphone. Et en fait, mon père m'a rappelé quand même. Et là, ça a été compliqué parce qu'il est anesthésiste, réanimateur. Et donc quand j'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé, il m'a un peu coupé, il m'a dit non, c'est pas possible, on meurt pas d'un traumatisme facial. Et il a pas du tout su me réconforter, enfin c'était plutôt l'inverse. Ça m'a mis en colère et j'ai décidé d'arrêter de parler à mes parents pendant quelques mois. On avait déjà une relation un peu conflictuelle avant ça, il y avait pas mal de tensions. Et là, c'était juste trop, et je pouvais pas me permettre d'avoir d'autres émotions compliquées par-dessus toutes les émotions que j'étais déjà en train d'essayer plus ou moins gérée.
La psychologue, elle vous a invité à la recontacter ou comment ça s'est terminé votre session avec elle en gros ?
Le soir de l'accident, elle m'a quittée à partir du moment où mon collègue est venu me chercher à l'hôpital. Et après, on s'est revus 2 jours plus tard. Et 1 mois plus tard, on a de nouveau une séance. Et puis, sachant que aussi, je peux l'appeler un peu à tout moment. Elle s'est vraiment bien occupée de moi. Elle m'a demandé quelles étaient les ressources que j'avais, comment je faisais face. Après, plus concrètement aussi, elle a appelé un médecin pour me prendre un rendez-vous, pour qu'il me fasse un arrêt de travail. Alors le médecin, il m'a mis 2 semaines, sachant qu'on aurait pu le prolonger. Mais en fait, au bout de 2 semaines, j'ai recommencé à travailler. Et ça m'a aidé de bouger et de pas rester statique, parce que moi, j'arrivais plus à bouger. Ça m'a un peu paralysée. C'est comme si mon cerveau et mon corps aussi marchaient au ralenti. Du coup, c'était bien d'avoir le vélo pour pouvoir me sortir de cet état. Et c'était aussi un peu une manière de rendre hommage à Lucie. Elle avait aussi envie de devenir coursière à vélo et c'était un peu un rêve partagé. Et j'ai continué, quoi.
Comment est-ce que vous vivez ces premiers jours ? Est-ce que c'était une évidence de retourner sur place dans votre lieu de vie à toutes les deux ?
Alors le premier soir, j'ai pas dormi dans la caravane et j'appréhendais beaucoup d'y retourner parce que je me disais que ça allait faire remonter des émotions, que ça allait être trop dur. Entre-temps, vu que j'avais prévenu toutes mes colocs, elles sont revenues. Donc le soir, on était toutes là. Et en fait, quand je suis retournée pour la première fois dans la caravane après l'accident, j'y suis allée et ça m'a beaucoup apaisée. C'est un peu ma grotte, c'est un endroit où je me sens vraiment bien. Enfin, je sentais aussi encore beaucoup la présence de Lucie et en fait, c'était très réconfortant. J'écris pas mal, en général. Donc j'ai écrit sur l'accident, quoi. Déjà, juste de pouvoir un peu poser les mots sur à quel point c'était horrible et ce que j'ai vu et tout. Et puis ensuite, j'écris sous forme de lettre à Lucie, en m'adressant à Lucie. Et le fait de faire ça, je crois que ça m'a fait sentir vraiment sa présence, comme si elle était là et que je lui parlais vraiment. Et ça m'a réconfortée. C'était une bonne surprise parce que je me suis dit, le fait de penser à elle, ça va être trop dur, ça va me faire trop mal et tout. Et en fait, de penser à elle, il y a toujours quand même du réconfort. Après, c'était un peu compliqué pour m'endormir parce qu'à chaque fois, en fait, je revivais le moment de l'accident et j'étais vraiment encore en état de choc. Je voyais du sang, Lucie par terre avec sa blessure béante et surtout, j'avais cette sensation hyper désagréable, comme un espèce de sursaut qui fait mal et qui m'empêchait de me relâcher dans ma tête. Du coup, j'ai essayé de mettre des images mentales par-dessus, pour cacher, en fait, les images de l'accident. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu l'image d'une grand-mère qui cuisine un gâteau, enfin, une grand-mère hyper réconfortante. C'est un peu ça qui m'a permis de me calmer. Par-dessus les images de l'accident, j'ai aussi mis des images un peu grotesques de gens qui dansent et qui font plein de bruit, comme si j'avais besoin de mettre encore plus de bruit pour cacher ça. C'est un peu comme ça que j'ai pu quand même dormir, parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi, quoi.
Des rêves ? Des cauchemars ?
J'ai pas fait de cauchemars. J'ai pas mal rêvé de Lucie. Et au début, je rêvais tout le temps que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, que je croyais qu'elle était morte, mais en fait, non. Ou elle était là, et puis en fait, tout d'un coup, dans ma tête, ça faisait « mais non, en fait, elle est morte, elle peut pas être là ». Ça me rattrapait, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais à chaque fois, c'était trop bien, en fait, de rêver de Lucie, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était là, et qu'on se retrouvait. Du coup, j'étais trop contente de rêver d'elle. Même quand c'était des rêves un peu bizarres et pas forcément hyper agréables. Mais j'ai jamais vraiment fait de cauchemars. Enfin, les images, je les avais plutôt quand j'étais réveillée, les souvenirs de l'accident.
Dans ces premiers jours, est-ce qu'il y a des comportements qui étaient censés être bienveillants mais qui vous ont plus heurté qu'autre chose ?
Non, et tout le monde a vraiment été super. Avec mes colocs, on s'est dit qu'il ne fallait pas que les gens viennent n'importe quand, parce que forcément tout le monde avait envie de venir nous voir et de partager la douleur et tout. Du coup, on a dit, on fait 2 soirs où tout le monde peut venir, comme ça les gens ils viennent, mais d'un coup, et ça nous prend pas d'énergie, où on sait jamais quand quelqu'un va débarquer. C'était une super bonne idée de faire ça, parce que ces soirées où tout le monde était là, et enfin, il y avait tellement d'amour autour de nous, ça pouvait que aller bien en fait. Et avec mes colocs, on a organisé les funérailles. D'abord, il y a eu une cérémonie un peu qui a plus été organisée par la famille à Montois, dans la chapelle. Et ensuite, on a dit à tous nos amis de venir à vélo et on a fait une procession jusqu'à Écublanc. En fait, on habitait à Écublanc à ce moment-là. Et on a pu faire une cérémonie chez des amis qui ont une ferme avec une grande cour. Donc on était dans la cour, mais il n'y avait pas... Enfin, le corps, il était resté à Montois. Et là, on a fait une cérémonie plus avec les amis. C'est l'aumônier de l'EPFL, qui est un ami à nous, qui l'a un peu officié. Il y avait des textes, une amie qui fait de la musique, qui a chanté. Il y a des amis qui ont cuisiné pour tout le monde, enfin... Il y a un peu tout le monde qui a participé. C'était assez festif, c'était bien comme cérémonie. Alors moi, j'ai dit quelques mots à la cérémonie. Et l'aumônier, il nous a conseillé de faire ça, même si on n'avait pas forcément trop envie de parler devant tout le monde, enfin de choses personnelles quand même. Et en fait, dans le processus du deuil, c'est bien d'être un peu triste tous ensemble à un moment et de réussir à partager aussi sa tristesse. Alors elle a été incinérée. Mais c'est vraiment sa famille qui a gardé les cendres et qui s'est occupée de tout ça.
Est-ce qu'il y a, dans ces premiers jours, une tentative de compréhension de ce que c'est que le deuil ?
Au début, et même pendant les premiers mois, j'ai un peu mis le deuil de côté. Parce que ce qui était plus important pour moi à traiter, c'était le traumatisme. J'étais en train de dissocier tout le temps. Le souvenir traumatique, du coup j'ai regardé un peu des conférences sur le traumatisme. Parce qu'en fait ça change quand même pas mal de choses dans le corps et dans le cerveau. C'est comme si les souvenirs normaux c'était des œufs de poule, normaux. Et que le souvenir traumatique c'est un gros œuf d'autruche doré qui a des petits grelots à l'intérieur. Du coup il fait du bruit quand on l'agite. On n'arrive pas à regarder autre chose que ce souvenir et il prend toute la place. J'étais vraiment en train de réfléchir à... sur l'accident en permanence, mais c'était pas désagréable. C'est un peu comme une réaction de survie, de se dire, bon, il y a eu un danger, maintenant il faut essayer de le comprendre pour que la prochaine fois qu'il y a un danger, je sois prête. Du coup, j'avais plus de réflexes, j'avais mes sens qui étaient un peu plus aiguisés, et ça, je l'ai vraiment remarqué au niveau de l'odorat, et j'étais tout le temps un peu en alerte, et en même temps, pour me protéger de toutes ces émotions compliquées, mon corps, il a produit des substances comme de la morphine. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, aussi genre proche de la kétamine. Donc j'étais en permanence shootée, en fait. Et la plupart du temps, j'allais super bien. Surtout au début. Cet état, il était assez fort pendant 3 mois. Après, il s'est estompé petit à petit. Mais j'étais euphorique. J'avais vraiment envie de vivre et je trouvais ça indécent. Mais c'est vraiment des processus qu'on contrôle pas, en fait. C'est là que... je me rends compte que le corps, il est quand même prévu pour survivre à plein de situations pas cool, qu'on est vraiment taillé pour la survie, quoi. Assez rapidement, dans cet état d'euphorie qui a suivi l'accident, j'avais aussi beaucoup de libido. J'ai très vite cherché à vivre d'autres histoires. Après, au bout d'un moment, ça s'est un peu estompé, cette envie, et il y avait toujours un peu cette balance entre bah, j'ai quand même envie de lui rester fidèle, et en fait c'est un peu bizarre quand même de vivre une autre histoire alors que je suis encore en plein dans le deuil, mais en même temps j'avais vraiment besoin de réconfort et j'avais besoin d'aller de l'avant. Ouais, il y avait toujours un peu cette balance. Parfois ça m'arrivait de réaliser, en fait c'est comme si j'étais en permanence dans un brouillard. Tout ce qui était positif dans ma vie, je le ressentais hyper fort, et tout ce qui était négatif ou la peur, ou des contrariétés, ben je les ressentais pas vraiment, en fait. Et parfois, je réalisais qu'elle était morte. Et là, c'était horrible, mais physiquement, super dur. Pendant, je pense, quelques secondes. Le temps que le brouillard revienne en force pour me recouper de mes émotions.
Qu'est-ce qui s'est passé après cette première phase de dissociation totale ? Est-ce qu'il y a eu un moment, progressivement, d'autres émotions qui sont apparues ?
Le plus difficile à gérer, c'était la culpabilité. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'aurais dû voir qu'elle avait trop bu. C'est vraiment ce qui m'a le plus étouffée. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait bien quand même d'aller voir une psychologue qui est spécialisée dans les traumatismes. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, elle m'a expliqué que, en gros, le cerveau humain, quand on repense à un événement, en fait, on le revit. Elle m'a donné l'exemple d'une gazelle qui est en train de brouter dans la savane. Il y a un lion qui arrive, et du coup, la gazelle, elle va partir en courant. Et là, il y a vraiment toutes les réactions de défense qui se déclenchent dans son corps. Mais le moment où elle est hors de danger, elle va complètement réussir à retourner à un état calme. Alors que les êtres humains, dès qu'on repense à un événement traumatique, on va le revivre. Il va de nouveau y avoir tout ce déclenchement de réactions inappropriées. Et ce qu'on a fait avec elle, c'est un peu de retrouver un état de calme. On a repris toute la scène en commençant un peu bien avant l'accident. Donc je racontais un petit peu, ensuite je faisais une pause et j'allais après. Et ensuite revenir avant. Et en faisant des sauts comme ça, on se rapprochait du moment le plus traumatique. Et à chaque fois qu'il y avait une émotion compliquée qui sortait, ben, on la traitait un peu avec la psy. Le fait de refaire tout ce fil en étant accompagnée, et, ça m'a vraiment aidée.
Ça a duré combien de temps, cette thérapie, ou est-ce que vous la voyez encore?
Ça a duré 3 mois à peu près. Après, elle a lié ça aussi avec des techniques inspirées de médecine traditionnelle péruvienne, plus énergétique. J'étais allongée et elle avait ses mains sous ma tête. Et elle me guidait un peu à partir des sensations physiques. Qu'est-ce qui monte comme image mentale? Ça ressemblait pas mal à de l'hypnose. Mais pendant des mois, j'avais beaucoup de colère. Et justement, c'est en faisant le travail avec la psychologue que j'ai pu un peu libérer cette colère et comprendre que ben, c'était peut-être juste la colère contre la vie, quoi.
Vous arriviez à pleurer? C'est un peu une question bête, mais...
Si, si, j'ai beaucoup pleuré, oui. Ouais, non, là, il fallait. Des fois, ça faisait mal, j'étais là, bon, il faut juste traverser ça, tu vas pas mourir. Ça fait mal, mais tu vas ressortir de l'autre côté et ça va bien se passer. En tout cas, la première année, je l'ai passée complètement dans le brouillard et j'avais plus de repères temporels. J'avais du mal avec les repères spatiaux quand j'étais en train de dissocier. Et pareil pour l'empathie. Il y a vraiment eu plusieurs mois où je devais un peu intellectualiser les réactions que j'avais avec les gens, parce que j'arrivais plus à empathiser.
Il y avait trop de choses à gérer pour pouvoir produire une autre émotion pour quelqu'un d'autre.
Ouais, je pense que j'ai eu peur d'éprouver des émotions, quoi.
Quelles qu'elles soient.
Ouais, enfin, ça aurait impliqué que je réalise qu'elle est plus là, et c'était trop dur. Ou des fois, j'avais des déclencheurs de stress, par exemple de faire du vélo sur une route mouillée, ou d'entendre des sirènes d'ambulance, d'entendre quelqu'un qui parle d'accident, et c'est la panique. C'est vraiment un état handicapant que les autres personnes ne se rendent pas forcément compte. Je voyais, mes collègues, par exemple, sortir et faire la fête, et travailler le lendemain, et puis recommencer, et je ne pouvais pas les suivre, en fait. Enfin, il y a plein de choses que je décommandais un peu au dernier moment, genre, en fait, non, là, je ne peux pas. Du coup, je me sentais aussi un peu à l'écart et incomprise, parce que j'allais pas non plus prendre le temps d'expliquer à tout le monde ce qui se passait dans ma tête. Mais j'ai quand même assez vite accepté. Enfin, je savais que ça servait à rien de vouloir retourner dans le passé, parce que de toute façon, c'était pas possible, ou de changer quelque chose. Ça, ça a été un peu difficile aussi, c'est que j'étais tellement dans l'acceptation que j'arrivais plus à avoir d'emprise sur le monde concret. J'étais vraiment un peu amorphe pendant longtemps. À pas réussir à prendre de décisions ou d'entreprendre des choses. J'étais très léthargique, mais je me disais c'est complètement normal en fait d'être triste. Et je me suis aussi laissée vraiment du temps pour aller mieux et pas me juger de rester une après-midi entière sur le canapé et de rien faire. Après j'ai aménagé mon emploi du temps parce que j'avais besoin de beaucoup me reposer, donc je pouvais pas me lever trop tôt. Donc j'ai travaillé que l'après-midi. Sinon c'était un peu genre le réveil sonne à 6h et bon, j'avais l'impression que mon corps il me disait mais en fait on essaye de se reposer là, enfin il y a un truc à gérer donc va pas travailler tu vois, enfin c'est pas important.
Parce que pour rééquilibrer le système nerveux, le plus sûr c'est le sommeil.
Ouais c'est ça, le sommeil, limiter le stress, faire des choses qui me font du bien comme écrire ou dessiner ou enfin faire des trucs artistiques, ça me fait du bien. Le sport, c'est devenu un peu une addiction. Il y a un moment où j'en avais vraiment besoin. Et la nourriture, je pense qu'il y a eu une espèce de boulimie complètement consciente et assumée. Je mangeais quand c'était trop difficile, avec les émotions. Je voyais que je mangeais beaucoup et je me disais, en fait, c'est complètement OK, là, à ce stade, tu fais ce que tu peux, on est dans la survie.
Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes encore dans la survie ?
Non, aujourd'hui, ça va mieux, quand même. Il y a quelques mois, j'ai commencé à aller voir un kinésiologue. Il travaille vraiment aussi avec l'inconscient. Je sens vraiment que ça me fait du bien. Peut-être j'ai presque retrouvé l'état avant l'accident.
Aujourd'hui, vous avez quelle relation avec ce souvenir ?
Au début, j'ai vraiment essayé de retenir le souvenir traumatique, presque un peu de le chérir parce que c'était mes derniers souvenirs avec elle. Et ensuite, j'ai compris qu'il y avait d'autres manières de lui rendre hommage, sans essayer de m'accrocher au passé et de reproduire le passé.
Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose dont les gens osent vous parler ? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous en parle ?
En fait, il y a très peu de personnes qui abordent le sujet avec moi. Et je pense que les gens ont vraiment peur de faire remonter des choses désagréables. Alors qu'au contraire, ça me fait vraiment du bien d'en parler. Une fois, il y a une amie qui m'a demandé hyper frontalement même de lui raconter les détails de l'accident. Et moi, c'est un truc que je fais jamais parce que c'est hyper glauque. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il y a un peu une espèce de pudeur des deux côtés où moi, j'ai pas non plus envie de venir avec mes histoires et de mettre un malaise dans la conversation. Alors que peut-être qu'en fait, des fois, je pourrais aussi plus oser dire ce que je pense.
C'est quoi la question que vous aimeriez qu'on vous pose et puis que peut-être les gens n'osent pas vous poser ?
J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de tabous et que juste on me dise si par exemple il y a un sujet de conversation sur les accidents, qu'on me dise « Ah et toi, c'était comment le soir de l'accident ?» Et aussi j'ai pas envie qu'on arrête de parler de Lucie parce que ben, j'ai envie de me souvenir d'elle. Et des fois en fait j'apprends qu'il y a des gens qui ont parlé de Lucie entre eux. Et j'ai l'impression que volontairement, on a attendu que je sois pas dans la conversation, et c'est assez blessant. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'aurais envie d'être dans toutes les discussions qui parlent de Lucie. Enfin, c'est pas possible. Mais je pense que on pourrait plus m'en parler, moins avoir peur, et même si je m'effondre en larmes au milieu de la conversation, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Et d'ailleurs, avec mes colocataires, on en parle hyper librement, et ça fait du bien. Les premiers temps, quand elle est morte, on avait même besoin de un peu de décompresser. Et du coup, on faisait des blagues là-dessus, avec un humour un peu noir. Les gens autour, ils comprenaient pas trop, mais ça nous faisait du bien. Je suis toujours pas sûre de ce que ça veut dire exactement faire son deuil. Mais je pense que je suis encore en plein dans le processus. Depuis l'accident, je me projette plus du tout dans le futur. Je me dis, on verra bien ce qui se passe. Je fais plus de plans, en fait. Ça sert à rien. Et dès qu'il y a le moindre petit truc, ça m'a appris à regarder ce qui va pas, trouver une solution. Et ça m'a obligée de vraiment vivre dans le présent.
Quand vous pensez à Lucie, quelle est l'émotion dominante ?
Ben, ça me met hyper en joie de penser à Lucie. C'était vraiment une personne incroyable qui a inspiré beaucoup de gens et qui a fait du bien à beaucoup de personnes, dont moi. Et à chaque fois que je pense à elle, c'est avec beaucoup de tendresse et d'amour et de joie. Après, il y a des moments où forcément c'est difficile de se dire qu'elle n'est plus là. Et je pense peut-être je vais rentrer chez moi ce soir et je vais pleurer parce que ça aura remué plein de choses. Mais pour l'instant, de reparler d'elle et de repenser à elle, ça me fait me sentir bien en fait.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la 6e saison déjà de Brise Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!